Espace Livre, la chronique littéraire de Demander le Programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Rencontre avec Jean-Louis Fournier, deuxième partie. Alors, Jean-Louis Fournier, votre livre, c'est de l'émotion à l'état pur. Vous évoquez la cruauté de chaque événement qui, dans le monde ailleurs, enfin dans le monde entre guillemets normal, est une fête. Ainsi, parce qu'il faut dire que votre livre est un livre écrit avec un humour très, très particulier qui en fait un style tout à fait différent de ce qu'on peut attendre d'un livre consacré à un sujet aussi grave. Et vous dites, à propos d'un de ces événements, qui d'habitude est une fête chez les gens, entre guillemets, normaux, « Notre album de photos de famille est plat comme une limande. On n'a pas beaucoup de photos d'eux. On n'a pas envie de les montrer. » Dans cette séquence, parce que votre livre est divisé en petits flashs, comme ça, des séquences courtes, j'ai ressenti que ce livre était une manière d'avoir un album de famille qui soit un album de famille fait de photos qui sont prises par le cœur. C'est-à-dire qu'elles en disent autant sur ce qu'elles montrent que sur celui qui décide enfin de montrer.
C'est une analyse qui me paraît assez juste, à tel point que justement ce livre, ce que je ne fais pas habituellement, j'ai décidé de l'offrir à tous les enfants de ma famille. Mes frères ont des enfants, j'ai une sœur aussi qui a des enfants, et tous les neveux vont avoir un livre de leur cousin, qui est finalement leur... Oui, ce sont leurs cousins. Et qui finalement ne connaissaient pas. Parce que ces gosses, ils n'ont jamais, ils les ont croisés comme ça, mais là, ils vont les connaître. Et il y en a un d'ailleurs qui l'avait lu avant moi, il m'a dit bah, maintenant j'ai l'impression de les connaître. Et j'ai l'impression que tu les as fait exister plus qu'avant. Et donc, c'est la magie de la littérature de ranimer des choses qui n'étaient pas dans les mots.
Effectivement, les mots permettent de surmonter la frontière de l'indicible et parvenir à dire des choses qui sont. Qui sont remplis d'une tristesse, d'une mélancolie, mais en même temps, la terrible espérance d'un père à propos de la vie de ses enfants. Vous écrivez « J'espère quand même que, mise bout à bout, toutes leurs petites joies, et là vous les citez, et là c'est terrible, Snoopy, un bain tiède, la caresse d'un chat, un rayon de soleil, un ballon, une promenade à Carrefour, les sourires des autres, les petites voitures, les frites qu'un de vos enfants appelle fit, 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 auront rendu le séjour supportable. » Même l'espoir du bilan de ses vies est désespéré, mais ces petites choses, comme vous les montrez, finalement, on dirait d'incommensurable bonheur.
Certainement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mesurer avec l'instrument de mesure de nous, les nantis, les surdoués, les gâtés. Il y a peut-être des joies très simples, finalement, qui peuvent illuminer des vies. Et c'est-à-dire qu'on est dans un monde actuellement où, quand on n'a pas un ordinateur, quand on n'a pas, je regarde là vos micros, tout ça, toutes ces espèces de cette technologie qui est absolument extraordinaire et super. Peut-être que quand on n'a pas ça, on n'a rien, mais c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a peut-être des choses pour eux qui sont beaucoup plus simples. Et je souhaite vivement que leur vie ait quand même été douce. Enfin, il y a toujours un qui est là, mais enfin, il est...
Oui, Mathieu est
Thomas,
décédé.
Thomas est encore là. Enfin, il est de plus en plus dans les nuages, mais il est encore là. Donc, il a encore des petites joies. C'est vrai que c'est des petites joies. Mais bon, est-ce que les nôtres sont des grandes joies? On vit peut-être aussi avec des petites joies. Ce que je souhaite vivement, c'est que quand même leur vie aura été vivable.
En tant que chroniqueur littéraire, étant appelé à vous rencontrer sur ce livre-là, moi je me suis demandé si vous donner la parole sur ceci ne nous ramène pas à l'indicible que vous avez finalement surmonté en écrivant le livre. Et à la pudeur et aux convenances de circonstances. Alors, j'ai essayé de trouver, avant de vous rencontrer, une réponse dans ce livre à cette interrogation et à cette inquiétude. Et vous dites, comme Cyrano de Bergerac qui choisissait de se moquer lui-même de son nez, je me moque moi-même de mon enfant, de mes enfants. C'est mon privilège de père. Donc, c'est à ce titre-là que finalement, en parler, vous parlez du livre alors que le livre dit tout. Est-ce que c'est cela qui vous permet de...
Non, mais je crois que c'est bien en plus, parce que si vous voulez, moi c'est un truc que je veux, une expérience que je veux partager, parce que c'est vrai qu'elle est un peu atypique. Elle est atypique d'ailleurs par son énormité, deux enfants handicapés, c'est quand même excessivement rare à deux ans d'intervalle, et puis la façon dont moi je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir le goût et certainement un sens de l'humour qui fait qu'au lieu de m'effondrer, De m'effondrer dans un lac de larmes, j'ai réagi en plaisantant. Et je continue à penser que l'humour est un extraordinaire antalgique et que c'est quelque chose qui m'a permis de supporter ça et de survivre à ce véritable drame parce que j'ai plaisanté. Et plaisanter, c'est prendre de la distance par rapport aux choses et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis je crois que le rire, c'est le plus court chemin d'un homme à un autre. Et moi, si vous voulez, ces enfants-là, par exemple, il est coutume de parler d'eux avec des sanglots dans la voix et des larmes de crocodile dans les yeux. Moi, j'ai voulu parler d'eux d'une façon différente, évidemment en m'en moquant. Et ces moqueries, évidemment, sont des moqueries pleines de tendresse. D'ailleurs, en réalité, ce n'est pas d'eux que je me moque de moi, pour essayer de me prouver que je ne suis pas malheureux.